7h42 sur France Culture. Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'APHP. Vous publiez L'Hôpital à cœur ouvert. Et dans ce livre, vous évoquez des mesures qui ont permis d'économiser beaucoup de vies humaines.
Mmh. Oui, mais je trouve important quand on parle des moyens consacrés à la santé, des prouesses technologiques, du défi ou du vertige face à ce qui évolue, de rappeler quelques petites choses assez simples et fondamentales. Et je rappelle que l'un de mes plus grands souvenirs, c'est d'être membre du cabinet de Bernard Kouchner, quand des gynécologues et pédiatres nous disent il y a peut-être quelque chose qui peut sauver des vies, c'est d'arrêter de proposer ou de prescrire ou d'influencer les parents pour qu'ils posent leur nourrisson sur le ventre. Mmh. Parce que ça suscite ou ça facilite ou ça favorise la mort subite du nourrisson. Et je me souviens à l'époque, il y avait des choses, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, des fax, vous voyez ? C'était avant Internet. Et j'étais la petite main qui a envoyé un fax à tous les établissements de santé disant « Arrêtez de mettre les nouveau-nés sur le ventre et mettez-les sur le dos ». Résultat, d'une année à l'autre, on est passé de plus de 750 morts subites par an à 250-300. 400 vies entières, puisque c'est la vie qui commence à être sauvée, et puis des centaines, et donc depuis 15 ans, des milliers de familles ont vu leur sort bouleversé par cette simple directive. Voilà, donc je trouve ça assez utile de rappeler ce genre de choses, de la même manière que je pense que le président de la République a sauvé le plus de vies humaines au cours du XXe siècle, c'est Chirac, parce qu'il y a un fou de la santé publique qui s'appelle Claude Gault, qui à un moment a dit plus d'amnistie dans les campagnes présidentielles. Et il y a une réaction en chaîne qui a abouti au radar, au permis à point, à toute une série de choses qui ont fait passer la mortalité routière de 10 000 à 4 000.
On va voir avec vous comment va notre système de santé, l'actualité de ce système de santé. Est-ce qu'il faut le transformer ou bien au contraire le préserver comme tel? Est-il trop coûteux ou bien au contraire manque-t-il de ressources? Toutes ces questions qu'on se pose sur l'hôpital et puis dans l'actualité tragique, il a beaucoup été question des urgences, notamment à l'issue de l'anniversaire de la commémoration des attentats du 13 novembre. À Paris, ce que vous dites finalement sur la situation des urgences est plus rassurant qu'il n'y paraît. Plus rassurant aussi lorsque l'on y va aux urgences. On a toujours l'impression d'attendre de trop, Martin Hirsch.
Oui, on attend encore trop, bien évidemment. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette idée qu'il faudrait que le système serait mal utilisé me paraît pas une fausse idée. Finalement, le patient est relativement rationnel. Le patient qui va aux urgences, même s'il attend, il faut qu'il attende moins, et nous essayons de faire en sorte qu'il attende moins, il va avoir un service qui va lui donner à la fois l'accès à un médecin urgentiste, à des médecins spécialistes, à la radio, à la biologie, et il va avoir tout en un. Quand on va regarder dans les autres pays ce qui se passe, dans les autres pays, ils ont commencé à organiser des petits centres d'urgence qui souvent sont vraiment au carrefour entre l'hôpital et la médecine de ville. Mmh. Et il paraît naturel à tout le monde que les patients aillent dans ces petits centres. Donc finalement, ce que je voudrais dire, c'est que la vocation d'un centre d'urgence qu'on voit comme quelque chose qui est uniquement pour les urgences vitales est aujourd'hui plus complexe, plus duale. L'urgence, c'est l'endroit où on va, effectivement, quand on a besoin assez rapidement d'avoir un soin non programmé, c'est-à-dire pas le truc qu'on prévoit trois mois à l'avance. Et moi, ce qui me passionne, c'est de voir comment on peut s'adapter à cela. Alors, on a du mal à s'adapter à cela parce qu'on part d'une certaine vision du patient qui devrait se comporter comme ça. Il ne devrait absolument pas venir pour une petite chose, etc. Mais si, il va venir. Et donc, on doit s'organiser avec les moyens les plus économiques possibles. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Mais l'idée que le système de soins peut évoluer, se façonner au gré des changements de comportement, me paraît intéressant.
Mais est-ce que les urgentistes trouvent que l'on attend de trop aux urgences ou bien ont-ils un autre regard ?
Ce que je raconte dans ce livre, c'est que j'ai entendu quand je suis arrivé que je me suis dit qu'il n'était pas possible qu'on laisse des temps d'attente qui soient en moyenne de 4 heures. J'ai entendu le discours habituel, pas de tous, mais de certains, me disant bah, finalement, c'est pas si mal d'attendre, c'est ce qui permet de sélectionner ceux qui ont vraiment besoin de les discriminer par rapport aux autres. discours aussi absurde que le discours d'il y a 20 ans où on disait que la douleur, c'était bien, qu'il ne fallait pas calmer la douleur parce que la douleur était l'auxiliaire de la médecine, parce qu'elle apportait des informations tout à fait utiles et où on était réticents. Je me souviens qu'on n'arrivait même pas à acheter dans les hôpitaux publics il y a 20 ans des pompes à morphine pour les enfants. C'est dire. Donc j'ai entendu ce même discours. Malheureusement, les faits m'ont donné raison puisque une patiente est morte en attendant au milieu d'une salle d'attente. Vous vous rappelez peut-être, c'était il y a 3 ans et demi. Et on a mis 3 heures pour s'apercevoir qu'elle était morte au milieu des autres patients dans une salle d'attente. Donc attendre n'est pas bon. Alors réduire le temps d'attente n'est pas si facile que ça, parce qu'il ne suffit pas... ce qui se passe dans un service d'urgence, ce n'est pas simplement un tête-à-tête entre un médecin urgentiste ou une infirmière et un patient qui vient parce qu'il a mal. Dans un service d'urgence, c'est l'interaction entre cette équipe-là, entre le labo de biologie qui est plus loin, pour lequel il faut aller apporter les prélèvements et que les résultats reviennent le plus vite possible. À côté, il y a l'imagerie, le scanner, etc. Au-dessus, il y a les lits où on va hospitaliser ceux qui ont besoin. C'est tout un système. Donc là aussi, quand ça marche mal, c'est le symptôme de quelque chose qui ne marche pas bien. En revanche, quand ça marche bien, quand le flux est rapide, ça veut dire que tout l'hôpital va bien. Et c'est ça mon objectif, que tout l'hôpital aille bien.
Et aujourd'hui, justement, est-ce que vous considérez que les hôpitaux, notamment les hôpitaux de Paris, puisque ce sont ceux dont vous avez la charge, Martin Hirsch, sont-ils bien organisés en cas donc de surcharge, par exemple avec une épidémie ? Il y avait eu une polémique l'an dernier au moment de l'épidémie de grippe avec une vraie fausse interne qui avait dit que nos hôpitaux...
C'était une vraie interne, sauf qu'elle n'était pas dans un service de la PHP quand elle disait qu'il se passait des choses. Voilà. Mais à part donc, ça, c'est une vraie interne.
Autrement dit, est-ce que vous considérez vous que l'hôpital, si d'aventure il y avait par exemple une épidémie de grippe importante cet hiver, sommes-nous aujourd'hui en mesure d'y répondre? Vous êtes aujourd'hui à la tête de la PHP. Est-ce que l'organisation vous paraît satisfaisante, Martin Hirsch?
Je vais répondre aux deux questions. Est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce que l'organisation est satisfaisante à l'hôpital? Je ne vais pas répondre oui. En revanche, est-ce qu'on est capable de faire face à une épidémie de grippe? La réponse est oui. Ce contre quoi je m'insurge, c'est le fait de dire que il serait totalement anormal, absurde, une faillite, que quand arrive l'épidémie de grippe, on se trouve avec beaucoup de monde et que du coup, on déprogramme quelques patients qui étaient prévus justement cette semaine-là, pour revoir leur prothèse de genou, et on leur dit plutôt on va vous la faire dans 15 jours, parce qu'on a besoin d'un peu plus de place. Ça, c'est juste normal. Si on dimensionnait les hôpitaux en fonction du pic de l'épidémie, on aurait des hôpitaux avec 20% de lits en plus, et ces lits seraient vides 48 semaines par an. Ça serait totalement absurde, ça vous coûterait hyper cher. Ce que je dis aussi, moi, je suis pas un fanatique de la gestion de l'économie, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le soin, l'humain, etc., même si je suis pas docteur. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je préfère diriger les hôpitaux que diriger la fabrique des petits pois. Mais du coup, on est obligé quand même de savoir que l'hôpital fonctionne juste à la sueur de votre front. À la sueur du front des infirmières, bien évidemment, à la sueur du front des médecins, mais à la sueur de votre propre front. Chaque mois, on vient vous sanctionner, vous ponctionner, vous prélever des cotisations d'assurance maladie. Donc on est bien obligé de faire attention pour l'un et l'autre, parce qu'on est content à un moment d'avoir des sous quand les nouveaux médicaments, dont le traitement, les derniers médicaments, vous savez combien c'est ? Le traitement à 450 000 euros. Oups là, 450 000 euros pour un traitement. Donc on est bien content de les trouver. Je rappelle dans mon livre aussi qu'une de nos grandes fiertés, c'est le moment où on a évité le tirage au sort pour les patients, pour leur donner les nouveaux traitements anti-VIH. Ça, la France, elle n'a pas fait le tirage au sort. Elle a fait le tirage au sort pour rentrer dans une fac, mais elle a au moins évité le tirage au sort pour ça. Ben ça, c'est parce qu'on sait de temps en temps faire attention sur la manière dont on gère les établissements, etc., pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre. Voilà, c'est toute cette tension-là que j'essaye de partager.
Et pourtant, vous dites dans votre livre, Martin Hirsch, l'hôpital à cœur ouvert, qui a en quelque sorte nécessairement une équation difficile dans l'hôpital, c'est-à-dire finalement une demande illimitée, des besoins limités. Alors les besoins limités, on le voit par exemple lorsque vous évoquez le dimensionnement des hôpitaux, mais pour le reste, y a-t-il des soins qui lieu aujourd'hui parce qu'ils sont trop coûteux, ne sont pas administrés à tout le monde? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des calculs de fait parce que, par exemple, telle opération ne serait pas considérée comme viable pour quelqu'un qui a une espérance de vie limitée?
Si nous étions en Angleterre, je vous répondrais oui. En France, non. En France, il n'y a pas de calcul fait de cette manière-là. Il peut y avoir des conséquences de la tension financière, de la tension budgétaire, il y en a, qui peuvent malheureusement produire de la moindre qualité, etc. Mais en France, on a jusqu'à présent, et j'espère que ça continuera, on est là pour ça, évité le raisonnement « je ne prends pas ». En tout cas dans l'hôpital public, c'est à ça que sert l'hôpital public. Les acteurs privés, eux, peuvent trier ou sélectionner, se spécialiser sur ce qui est entre guillemets rentable, ce pour lequel le tarif de l'assurance maladie, ils sont sûrs que ça couvre les coûts et qu'ils ne prennent pas des patients en complication. C'est pas eux qui vont recevoir des patients qui viennent de pays dans lesquels ils ont des bactéries multirésistantes qui font qu'ils vont peut-être rester 3 mois à nous boucher une aile d'hôpital, etc. Ce qui pose aussi des problèmes. Moi, je dis qu'il faut un peu agir pour nous aider à confiner ces patients plutôt qu'à ce qu'ils puissent contaminer d'autres mains. Mais c'est un autre sujet. Donc,
on va en parler malgré tout.
Non, en France, on ne vous dit pas, monsieur, vous coûtez trop cher, votre maladie ne sera pas prise en charge, y compris avec une assurance maladie qui est là pour ça.
Mais alors, ces besoins limités, puisque là aussi, on comprend, Martin Hirsch, que les besoins soient illimités, mais que les moyens ne soient pas infinis, ils pèsent sur quoi?
Cette tension, elle se traduit par d'autres choses. La première, ce que je raconte, c'est que cette obsession que j'ai de pouvoir contrer cette inégalité nouvelle d'accès aux soins qui se joue sur les délais. C'est-à-dire, effectivement, quand la tension est forte, quand les contraintes sont là, on vous dira, d'accord, vous avez besoin de tel examen sophistiqué, mais ça sera dans 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Oui, vous avez besoin d'une intervention.
Ce qui est parfois difficile à comprendre.
Mais qui est surtout insupportable.